Vous écoutez RFI, il est 9h en temps universel, 10h à Paris, 12h à Alep.
Fabien Albert.
La Russie à la rescousse de Bachar el-Assad en Syrie. Le régime est en train de perdre la ville d'Alep au profit des djihadistes et des rebelles pro-turcs. Alep, où près de 300 personnes sont mortes en 3 jours de combat. Des raids russes ont été observés ce matin sur la deuxième ville du pays. De répression sanglante à massacre, la France franchit un cap dans la reconnaissance des méfaits de l'armée coloniale à Tiaroy, au Sénégal, 80 ans après les faits. Les historiens tentent toujours de faire la lumière sur cette journée du 1er décembre 44. Dans la banlieue de Dakar. Des manifestations en Espagne et en Géorgie. Un mois après les inondations à Valence, les sinistrés sont en colère et réclament des comptes à leurs élus. Des élus chahutés, aussi à Tbilissi, le pouvoir pro-russe s'écarte inexorablement de l'Occident au profit de Moscou. Et puis, cap en Islande à la fin de ce journal, le volcan politique est en éruption ce samedi à l'heure où débutent les législatives anticipées. Elles s'annoncent historiques. La ville d'Alep, en Syrie, prête à tomber entièrement entre les mains des djihadistes. Une avancée irrésistible depuis 3 jours. Les combats ont fait près de 300 morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La majeure partie de la ville est désormais dominée par le groupe Ayat Tahrir al-Sham, une ex-branche d'Al-Qaïda. Ce matin, pour la première fois depuis 2016, des avions russes ont mené des raids sur la ville. Moscou, allié du régime de Damas, de Bachar el-Assad, a promis de nouveaux équipements militaires supplémentaires d'ici 72 heures, Théo Renaudon.
Des convois de pick-up avec parfois mitrailleuses lourdes embarquées qui défilent dans la nuit noire. Images filmées par les combattants eux-mêmes dans les rues d'Alep, des hommes armés, barbe longue, index en l'air. On entend coups de feu et slogans religieux. Ces rebelles, soutenus tacitement par la Turquie, pour la plupart djihadistes, ont fait une avancée foudroyante dans la ville ce vendredi soir. Ils ont désormais pris possession de plus d'un tiers d'Alep jusqu'au centre-ville. En face, pas grand-chose. Les soldats du régime de Bachar el-Assad n'opposent pas grande résistance. Certains fuient vers le sud. L'aviation russe, leur allié, ne frappe que symboliquement et les hommes du Hezbollah et autres milices pro-Iran sont inexistants. Ce qui laisse le champ libre aux djihadistes pour s'emparer des bases militaires vides. À l'intérieur, munitions, véhicules, armes abandonnées dans la panique. Un arsenal trésor de guerre qui rendra plus difficile encore une éventuelle contre-offensive du régime et de ses alliés.
Théo Renaudon, Alep livrée à elle-même, donc coupée du monde. Tous les vols au départ ou à destination de la ville ont été annulés. L'aéroport fermé, les routes coupées. Dans la région, Israël annonce avoir mené une nouvelle frappe contre le Hezbollah au nord du Liban, à la frontière syrienne, alors que le cessez-le-feu est en vigueur depuis mercredi. Pour la première fois depuis 80 ans, la France parle de massacre à Tiaroy et non plus de répression sanglante au Sénégal. Dans une lettre adressée à son homologue Bassirou Diomaye Faye, Emmanuel Macron a employé ce terme. Le 1er décembre 1944, dans le camp de Tiaroy, près de Dakar, les forces coloniales françaises ont ouvert le feu sur les tirailleurs de retour au pays qui réclamaient le paiement de leurs arriérés de soldes. Un massacre qui a fait, selon Paris, 70 morts, entre 300 et 400, estiment les historiens. À la veille de ce 80e anniversaire, un comité d'historiens justement et d'archivistes sénégalais mandaté par le gouvernement pour lever les zones d'ombre de cette affaire livré ses premières conclusions. Les historiens ont découvert de nouvelles archives en France et plus précisément de nombreux actes de décès en provenance de l'hôpital principal de Dakar au moment des faits. Pour l'historienne Rokaya Fall, membre du comité de commémoration du 80e anniversaire, les archives françaises n'ont pas encore révélé tous leurs secrets.
Le fait d'avoir trouvé ces actes de décès, déjà c'est quelque chose que j'ai dit. Les recherches jusque-là, ne connaissait pas l'existence de ces actes de décès. Et cela a été possible parce que nous avons surpris une autre approche. On a été dans les communes pour voir un peu ce qu'on pouvait glaner par-ci, par-là. De là où sont partis les tirailleurs, vers le nord de la France, Morlaix, ensuite les camps de Rennes, les camps de Versailles, La Flèche, tout ça, si on essaie de mettre le nez un peu dans ces documents-là, on peut trouver des documents qui, jusqu'alors, ont été inédits.
Une propos recueilli par Léa Lisa Westerhoff. Tcharoï, nous en reparlerons à 14h10. Temps universel dans la marche du monde de Valérie Nivelon. Édition spéciale également pour les 80 ans. Demain, ce sera de 9h10 à 10h avec Julien Coquel-Rohem. Un mois après les inondations qui ont fait 230 morts et des milliards d'euros de dégâts dans le sud-est de l'Espagne, des rassemblements ont eu lieu ce vendredi en hommage aux victimes. Rassemblements qui oscillent entre recueillement et colère. Exemple de Nouria. Cette sinistrée était dans l'hommage hier à Paiporta. Elle sera ce samedi dans les rues de Valence pour montrer sa colère. Elle demande, comme de nombreux sinistrés, la démission de Carlos Masson, le président de la région, et des comptes aux élus, aux autres élus du pays.
Premièrement, dans une ville, le pouvoir le plus proche que nous ayons, c'est la mairie. Et je leur reproche de ne pas avoir donné l'alerte plus tôt. Deuxièmement, nous avons un gouvernement régional. Le gouvernement doit prendre soin de ses citoyens, il est là pour ça. Et non seulement il n'a pas pris soin de nous, mais il nous a laissés sans protection. Et enfin, le président du gouvernement central, lorsqu'il voit l'incompétence d'une région autonome et de ses dirigeants, il aurait dû reprendre les rênes et dire « Non, je ne peux pas abandonner cette zone parce que ceux-là, ceux qui sont en poste, les abandonnent. » Et en tant que président du gouvernement, il aurait dû agir au bout de 24, 36, 48 heures. Pendant 3 jours, personne n'est venu ici. Et il y avait des morts dans les rues. Alors qui sera jugé? Qui paiera? Quelle justice les jugera? Je ressens un mélange de colère, de tristesse, d'impuissance. Et je me demande si les dirigeants auront retenu la leçon.
Témoignage recueilli par notre envoyé spécial Pauline Glaise. Le Kosovo, petit pays des Balkans, en proie à des coupures d'électricité massives après cette explosion cette nuit. Elle concerne un canal vital pour 2 centrales thermiques du pays. Pristina y voit une attaque terroriste venue de la Serbie voisine. Attaque criminelle qui vise à détruire nos infrastructures critiques, assure le Premier ministre kosovar. Belgrade, de son côté, dément et dit condamner avec la plus grande fermeté cette attaque. Pour la deuxième soirée consécutive, des dizaines de milliers de manifestants pro-occidentaux se sont réunis à Tbilissi devant le Parlement de la capitale de la Géorgie. Ils protestent, ces manifestants, contre la décision du gouvernement pro-russe ce jeudi de geler jusqu'en 2028 le processus d'intégration du pays à l'Union européenne. En 48 heures de manifestation, plus d'une centaine de manifestants ont été arrêtés. Police géorgienne qui utilise massivement les gaz lacrymogènes. De son côté, la présidente du pays, Salomé Zourabichvili, proche de l'Union européenne, se dit solidaire du mouvement. La France, elle, en appelle au respect du droit de manifester pacifiquement. Le spectre de la Russie, visible aussi en Roumanie, où l'on vote demain à l'occasion des élections législatives. Un scrutin dans un contexte on ne peut plus tendu. Le premier tour de la présidentielle de dimanche dernier est remis en cause. Le second, prévu dans 8 jours, n'est pas sûr d'être maintenu. En ligne de mire des autorités roumaines, une ingérence venue de Moscou et de TikTok, qui aurait largement mis en avant Calin Georgescu, candidat pro-russe inconnu du grand public arrivé en tête. Un recomptage des voix est également en cours depuis hier. En Islande, le vote, c'est aujourd'hui dans le cadre des législatives anticipées après la chute de la coalition qui gouvernait l'île depuis plus de 7 ans. Les bureaux de vote ouvrent à l'instant. Le 13 octobre dernier, le Premier ministre Bjarni Benediktsson a décidé de jeter l'éponge et de mettre fin au gouvernement qui rassemblait 2 partis historiques, le Parti de l'Indépendance et le Parti du Progrès, qui étaient alliés en plus au mouvement des Verts et de la Gauche. Les désaccords étaient trop importants entre les 3 formations. Les cartes sont donc totalement rebattues. Ce scrutin pourrait déboucher sur une véritable révolution politique, Romain Lemaresquier.
Les tensions internes ont eu raison du gouvernement démissionnaire et pourraient avoir raison des partis historiques islandais. C'est en tout cas ce que prédisent les sondages. Le Parti de l'Indépendance, formation conservatrice et néolibérale, devrait passer sous la barre des 20% pour la première fois de son existence, voire sous les 15% selon certaines prévisions. Le Parti du Progrès orienté vers l'agriculture va quant à lui tenter d'obtenir au moins 5% des voix nécessaires pour entrer au Parlement, tandis que le mouvement des Verts et de la Gauche devrait tout simplement disparaître de l'hémicycle. Place à l'Alliance social-démocrate et au Parti de la Réforme. Les 2 formations sont données gagnantes et pourraient s'allier pour former une nouvelle coalition. 2 partis pro-européens mais qui n'en ont pas fait un thème de campagne ces dernières semaines. C'est plutôt l'économie et l'immigration qui font la une dans ce petit pays de moins de 400 000 habitants. Mais l'enjeu principal semble être le renouvellement de la classe politique. Une véritable révolution en Islande qui pourrait complètement redéfinir le paysage politique. Et si les prévisions des sondages sont exactes, la question de l'adhésion de l'Islande à l'Union européenne pourrait être remise sur la table par le biais d'un référendum, sachant que ce thème est l'un des rares points communs entre les deux formations données favorites pour ce scrutin.
Et les précisions de Romain Lemaresquier pour refermer ce journal. Il est 10h10 à Paris, 9h10, temps universel. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Grand Reportage.